sorcière dans la barque de pierre. Le prince Sigurd quitta un jour le royaume de son père, à bord de son drakkar pour aller chercher femme dans le royaume voisin. Il fut accueilli à bras ouverts par un vieux roi, sans descendance mâle, qui souhaitait auprès de lui un homme de haute lignée. Le mariage avec sa fille semblait aller de soi. Il fut d'ailleurs célébré avec tant de hâte que le prince n'eut pas le temps de voir son épouse. Le soir, il trembla en pénétrant dans la chambre nuptiale. Et si son nez était crochu comme un pied de lit? Et si ses joues étaient flasques? Et ses yeux mal accordés? Et si son front fuyant avait le cheveu rare? À la lueur des chandeliers, il releva avec angoisse le voile soyeux qui la cachait, et il découvrit, avec une joie infinie, le visage le plus fin et le plus harmonieux qu'il eût jamais vu. Les charmes de la princesse auraient fait pâlir d'envie les nymphes et autres sirènes. Au bout d'un an, sa femme exquise lui donna un fils, et le prince était aussi heureux qu'on peut l'être. Un matin, pourtant, il reçut un message de son père. Le roi agonisait. Le trône avait besoin de lui. Sigurd dit adieu à son père, à son beau-père, l'assurant que les deux royaumes seraient bientôt réunis. Il prit pour retourner dans son pays le même bateau qu'il avait emprunté pour venir, sur la mer froide, la mer du Nord, entourée cette fois d'une famille. Au large, en pleine nuit, le vent tomba soudainement. Les voiles battaient contre les mâts et le drakkar resta sur place à tanguer. Peu à peu, l'équipage désœuvré s'endormit. Le roi et la reine, tout à leur bonheur de jeunes parents, regardaient leur petit jouet avec une balle qu'ils lançaient à la lune. Sigurd rentra s'allonger sous la tente, tandis que la mère continuait de bercer son enfant. En chantonnant, elle contemplait la mer, si noire, si lisse. Elle aperçut au loin un point qui faisait sur les flots des remous minuscules. C'était une barque, manœuvrée par une silhouette tordue. Comme elle se rapprochait, la reine vit que la barque était de pierre. Et elle se maintenait sur l'onde. Un choc sourd résonna contre le flanc du vaisseau. L'embarcation venait d'accoster. La créature n'avait pas besoin d'échelle. Elle montait sans peine en plantant ses ongles dans les planches. Enfin, elle sauta sur le pont. La mère figée ne parvenait pas à crier. Le monstre avait une langue qui pendait jusqu'aux pieds. Ses sourcils touffus s'en mêlaient avec les poils de son bas-ventre. Ses jambes étaient aussi courtes que ses bras étaient longs, ondulant autour d'elle comme des tentacules. Elle parla soudain d'une affreuse voix de tête, car sa bouche béait sur son crâne, au milieu des cheveux.
« Donne, ma belle, donne tout tes hardes, ton marmot et ton pouillot d'époux !»
La reine, comme absente, se déshabilla, déposa son petit et descendit dans la barque de pierre.
« Par le sort, vogue et retourne chez mon frère dans le séjour de nuit !»
dit la sorcière. La jeune femme disparut dans les ténèbres. Le monstre s'habilla de la robe parfumée et prit aussitôt l'apparence de la reine. Agacée par l'enfant qui braillait, elle l'attrapa par un pied et le secoua pour l'arrêter. La pédagogie n'eut aucun succès. Le gamin hurla de plus belle et réveilla tout l'équipage. Sigurd accourut. Quand la mégère l'aperçut, elle lui lança son enfant comme un vulgaire ballot.
« Calme-le, il m'exaspère. Et on n'a pas idée de laisser une reine seule sous la lune, avec tous les bandits qui rôdent sur les mers. »
Sigurd fut étonné par cet éclat, mais il le mit sur le compte de la fatigue du voyage. Pourtant, la mauvaise humeur de son épouse ne s'atténua pas lorsqu'elle fut installée au château. Elle condamnait pour des riens ses serviteurs au pire supplice, effrayait ses dames de compagnie en mettant le feu à leurs jupons. Dès qu'elle s'approchait de son fils, il se mettait à hurler. Le roi dut trouver une nourrice. Lui-même ne regardait plus sa femme que de loin. Il goûtait ainsi sa beauté sans se frotter à son courroux. Un soir, deux gardes surprirent une scène étrange. Ils jouaient aux dés devant les appartements royaux quand ils entendirent à travers la porte
« Je paye un peu, je suis reine. À moitié, je me change à demi. Tout à fait, je redeviens sorcière. »
Curieux, l'un d'eux regarda par la fente de la serrure et l'autre se hissa jusqu'à une meurtrière. Sa majesté bâilla à se décrocher la bouche. Sur le champ, elle se transforma en une créature hideuse. Sa langue ondulait devant elle. Elle put se lécher un pied sans se baisser. Dans ses cheveux hirsutes, une bouche hurla.
« J'ai faim, mon frère !»
Le sol s'ouvrit, profond, à travers tapis et parquets, escaliers, fondations. Il s'ouvrit jusqu'au tréfonds. Du trou sortit un être à trois têtes. Il portait un pétrin de viande crue.
« Voilà, ma sœur, réjouis-toi !»
De fait, la sorcière se réjouit. Elle déchiquetait la viande et jetait au fur et à mesure les morceaux sanglants dans sa bouche écumante. Sa faim calmée, elle s'essuya les lèvres et les cheveux sur un coin de tapisserie.
« Merci, mon frère, disparaît à présent !»
Le géant tricéphale s'enfonça dans le sol. Sol et plafond se recomposèrent, comme si rien ne s'était passé. Les gardes se jaugèrent du regard et décidèrent de ne rien dire. Ils craignaient trop la reine. Pendant ce temps, dans la tour opposée, la nourrice veillait sur le petit prince. Comme tous les soirs, elle chantait une comptine à côté de son lit.
« dors, petit ange, le sommeil de ses ailes fines. »
À ce moment, les planches du sol se soulevèrent. Une dame apparut. Elle portait une longue robe blanche, son teint était blême et ses yeux tristes. Elle tendit les bras vers l'enfant. Tout joyeux, il s'y engouffra. Il caressa le doux visage qui ressemblait tant à celui de la reine. Mais la dame était attachée à une lourde chaîne qui enserrait sa taille d'un côté et disparaissait de l'autre dans le trou. Enfin, elle posa l'enfant et disparut dans le plancher. La bonne n'osa parler de l'étrange vision. Elle avait dû rêver. Le lendemain soir, pourtant, quand la lune passa devant la fenêtre, le parquet de nouveau s'ouvrit et la même dame apparut, comme la veille. Elle cajola l'enfant. Mais cette fois, avant de partir, elle murmura : deux sont passés, un seul demeure. La nourrice réfléchit. Deux sont passés. Elle parlait sûrement de ses visites. Un seul demeure. Le lendemain aurait lieu la dernière rencontre. La brave femme rassembla son courage et décida d'en parler au roi. Au petit jour, elle demanda audience. Le souverain attentif l'écouta et décida de venir voir lui-même. Après avoir embrassé son fils, Sigurd se cacha derrière une tenture. La lune glissa dans la fente. La lune glissa dans la fenêtre. Le sol se déchira et la dame blanche en sortit. Le roi reconnut la femme qu'il avait épousée. Il bondit dans la pièce, dégaina son épée et trancha la lourde chaîne. Poussant un soupir, la reine libérée tomba dans ses bras. Derrière elle, le trou s'élargit. Il s'ouvrait et se fermait, semblait manger le palais comme un sable mouvant. Il tirait à lui les murs, les escaliers, les poutres. Le roi entrevit, dans l'abîme, un être à trois têtes qui tombait. Le colosse essayait de se retenir aux pierres du château et entraînait tout l'édifice dans le gouffre. Soudain, il lâcha prise et disparut dans les ténèbres sans fond. Le palais trembla encore un peu, puis se rétablit. La reine dut s'asseoir. Son fils sur les genoux, elle raconta. La nuit, sur le navire, la sorcière avait pris sa place. Elle-même s'était sentie comme de pierre, sans volonté. Elle était descendue dans la barque et avait accosté sur une plage de sable noir. Tout y était sombre et froid, sans lune, éclairée seulement par la lueur d'acier des pierres. Un géant à trois têtes l'attendait et l'aida à descendre de l'embarcation. Il ne lui fit pas de mal. Au contraire, il lui offrit des trésors. Il lui parla d'amour et voulut l'épouser. La pauvre reine à demi morte n'avait trouvé d'autre recours que de se promettre à lui en échange de trois visites au palais. À ce récit, Sigurd ordonna aussitôt de saisir la sorcière et de lui faire boire de la chaux-vive. Elle se pétrifia sous son véritable aspect et servit de gargouille à la chapelle. Le roi, encore furieux, choisit même le côté le plus exposé au vent. Au grand soulagement du royaume et de la cour, la véritable reine retrouva sa place et veilla dès lors au bonheur de chacun.